d'Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1. Dans un instant, Éric Ciotti sera notre invité exceptionnel pour le grand oral. D'ici là, avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Vous êtes chef du service politique d'Europe 1. On va revenir sur cette journée ou ces prochaines échéances pour les Républicains. Ce matin, il y avait un petit déjeuner autour de Christian Jacob. Qui y avait-il autour de la table, Louis ?
Eh bien, il y avait tous les candidats possibles de la primaire de la droite. Donc, il y avait évidemment Xavier Bertrand qui a fait quand même son grand retour puisque on a appris il y a quelques jours qu'il participerait au congrès. Donc, il y avait évidemment Éric Ciotti. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va pouvoir lui poser quelques questions tout à l'heure. Et puis donc voilà, il y avait Valérie Pécresse évidemment, Michel Barnier, Denis Père qui est peut-être un peu moins connu.
Et Philippe Juvin.
Et Philippe Juvin évidemment. Voilà, ce qui était vraiment intéressant, c'est enfin, tout l'enjeu pour les Républicains, c'était d'afficher une famille unie. Donc il y a eu d'ailleurs une photo qui a été diffusée très rapidement sur les réseaux sociaux. Et donc ils ont parlé de beaucoup de choses, notamment sur l'organisation des semaines qui viennent, donc jusqu'au 4 décembre, le jour du congrès. Et donc par exemple, Le nombre de débats télévisés qu'il y aura. Il y aura entre 2 et 4 débats télévisés. On sait par exemple que Valérie Pécresse était assez favorable à ce qu'il y ait plusieurs débats, que Michel Barnier, lui, était favorable à ce qu'il y ait plutôt un ou deux débats maximum. Donc voilà. Mais ce qui sera le plus intéressant, c'est surtout demain matin, puisqu'il y aura la Commission nationale d'investiture, qui est d'ailleurs, que je crois, présidée par Éric Ciotti. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça montre que les Républicains sont déjà en train d'envisager l'après-2022 avec deux possibilités. La droite gagne, et donc dans ce cas-là, tout l'enjeu pour les candidats, c'est d'avoir une majorité qui est façonnée un peu à la main de chaque candidat si possible. Et puis, en cas de défaite, eh bien, c'est de savoir à quoi ressembleront les Républicains après 2022. Et donc, par exemple, face à Emmanuel Macron, comment est-ce que la droite peut peser face au deuxième quinquennat du président de la République ?
Bonsoir Éric Ciotti.
Bonsoir.
Bienvenue dans le grand oral de Punchline. On est heureux de vous recevoir. L'avenir des Républicains, effectivement, avec cette volonté de montrer une unité de façade, en tout cas, parce que la compétition va démarrer.
Pas de façade réelle.
La compétition va quand même démarrer entre vous cinq. Vous êtes le sixième dans cette histoire. Les débats vont pas se faire à fleurs et mouchetés. Vous allez véritablement débattre. Ça va être proposition contre proposition. Aujourd'hui, de quel autre candidat vous sentez-vous le plus proche ?
D'abord, moi, je veux saluer la démarche qui a eu lieu ce matin. C'est à la fois un aboutissement et un départ. La fin d'une longue période de crise, de confusion, et nous en sommes sortis. Et je crois que le fait qu'on soit tous autour de la table, autour de Christian Jacob, qui est l'artisan de cette union, de ce rassemblement, était un point très positif. Et désormais, nous sommes dans un nouveau départ pour gagner l'élection présidentielle. Alors, il y aura une compétition. On a décidé, d'ailleurs, et je crois que c'est l'état d'esprit qui nous anime tous, qu'elle soit sereine, qu'elle soit responsable. On a un devoir, c'est celui de l'unité. C'est ce qu'attendent nos électeurs. Et on a une responsabilité. J'ai la conviction que seul un candidat issu des Républicains pourra battre Emmanuel Macron. Et moi, je souhaite que, parce que Emmanuel Macron a abîmé notre pays, je souhaite qu'il ne soit plus président de la République. Donc, bien sûr qu'on a des différences. Il y aura des débats, il y aura des confrontations, mais je crois qu'elles seront, en tout cas, c'est mon état d'esprit, elles seront respectueuses, elles seront sereines. On a des différences, elles
vous
se poseront
dit, oui,
sur le projet. Moi, j'ai un projet qui est...
Quelle est la différence que vous mettrez en avant par rapport aux cinq autres
candidats ? Je prends un exemple, la politique fiscale. Je propose une véritable révolution fiscale. Pourquoi ? On est le pays au monde qui paye le plus d'impôts. Nous détenons ce triste record. Donc, il faut baisser massivement les prélèvements obligatoires. Je propose deux réformes. D'abord, la suppression des droits de succession, à l'exception des patrimoines très élevés, au-delà de 5 millions d'euros. Et ensuite, la mise en place d'un impôt sur le revenu avec un taux unique à 15%. Une flat tax, c'est-à-dire que tout le monde paierait le même impôt sur le revenu et on supprimerait en
tous
contrepartie...
Les gens imposables, vous voulez dire. Hein,
absolument. Aujourd'hui, moins de la moitié des ménages paient l'impôt sur le revenu et 10% des ménages paient 70%. Donc on a des stratégies dites d'évitement, de défiscalisation qui fait que beaucoup de la richesse nationale part à l'étranger. Donc je propose un taux qui aura une assiette qui sera beaucoup plus faible, avec une assiette plus large. Et en contrepartie, on pourrait diminuer de moitié le nombre et le montant des niches fiscales. Aujourd'hui, les niches fiscales coûtent plus à l'État que rapporte l'impôt sur le revenu. Et un impôt sur le revenu qui pressure ceux qui sont les plus créateurs de richesses dans notre pays. C'est deux démarches, deux différences. Il y en a sur le régalien, j'en prends une, le droit du sang, par exemple, pour obtenir la nationalité, pour mettre un terme à la nationalité obtenue par hasard, le droit du sol. Voilà. Je crois que je suis le seul à porter ces réformes. Ces elles sont différentes. Là. Vous voyez, on est sur le débat d'idées.
Louis Dragnel, une question.
Justement, je trouve ça intéressant que vous parliez des sujets régaliens. Enfin, vous êtes reconnu au sein de votre famille politique comme un expert, vraiment un spécialiste des questions de sécurité et d'immigration. Quand on regarde vos propositions aujourd'hui, qu'est-ce qui vous distingue vraiment de celle d'Éric Zemmour ? D'ailleurs, vous avez appelé, vous n'avez pas appelé, mais vous avez dit que vous étiez prêt éventuellement à voter pour lui au deuxième tour de la présidentielle.
S'il était face à Emmanuel Macron.
Je ne sais pas quelles sont vraiment les propositions d'Éric Zemmour. Je partage et je peux partager une partie du constat que dresse Éric Zemmour sur le déclin de notre pays, sur les menaces auxquelles il est confronté, sur la montée de l'islamisme. Sur le déclassement, qu'il soit social, d'une partie des ménages français qui regardent l'avenir avec beaucoup d'inquiétude. Je partage ce constat que je fais mien, je le posais déjà depuis 2015. Moi, je souhaite que la France reste la France. C'est le slogan de ma campagne. Après, une fois qu'on a partagé ce constat, c'est peut-être ce qui fait la différence. Et ce qui fait la différence avec un candidat issu de la famille des Républicains, c'est quels sont les propositions, comment on les met en œuvre, avec quelle équipe. Voilà, et ça, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. C'est sans doute ce qui nous différencie. Mais pour autant, quand Éric Zemmour ou un autre dit une vérité, je ne vais pas, de façon un peu stérile et ridicule, dire le contraire de cette réalité, parce que moi aussi, je la vois. Et surtout, ce qui est important, c'est que les Français la voient, hein.
Et justement, vous parliez d'équipe. Aujourd'hui, tout le monde appelle un peu au dépassement. D'ailleurs, vous posez vos idées, ce sont les vôtres. C'est des idées que vous avez souvent préemptées de vous-même. Est-ce que vous seriez prêt, pourquoi pas, à faire équipe avec Éric Zemmour si le cas se présentait à l'issue du deuxième tour de la présidentielle ?
Vous avez raison de souligner que ces idées, et c'est un peu ce qui, je crois, fait ma spécificité dans cette campagne. Je les défends depuis le début de mon engagement politique. Des valeurs pour mieux protéger nos concitoyens, des valeurs pour mieux faire respecter notre identité. Voilà, je le fais depuis 2007 que je suis député. Je me rappelle de mes contributions à la loi pénitentiaire, que je n'avais pas totalement approuvée d'ailleurs sur certains aspects. Je me rappelle du rapport sur l'exécution des peines que j'avais adressé à Nicolas Sarkozy, qui avait débouché sur 3 lois. Une loi sur l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants, jamais appliquée par François Hollande. Une loi suspendant ou supprimant les allocations familiales pour les parents manquant à leur devoir d'autorité parentale. Une loi pour construire des places de prison sur l'exécution des peines. Donc,
mais vous pourriez faire
moi, je suis en cohérence là-dessus. Et je suis dans ma famille politique. Moi, je souhaite qu'un républicain gagne. Je ferai équipe. Nous sommes une équipe.
Éric Zemmour n'est pas républicain.
Il est pas, il fait pas partie des républicains.
Voilà, donc il suit,
il suit sa démarche. Ce n'est pas la nôtre. Encore une fois, moi je le respecte. Je partage une grande partie du constat. Après, ce sont des chemins différents.
On va juste l'écouter, Éric Zemmour. Il était il y a quelques jours sur ce plateau. Écoutez ce qu'il dit à propos de cette primaire qui va s'organiser pour les Républicains.
LR est devenu depuis longtemps un parti de notables centristes qui a trahi l'héritage du général de Gaulle, qui a trahi l'héritage de Georges Pompidou, qui a même trahi l'héritage du RPR des années 90. Aujourd'hui, tous reprennent mon discours pour tenter de vous séduire. Ne soyez pas dupes. Les anciens chiraciens qui voudraient vous représenter se disent opposants de Macron. Mais que lui oppose-t-il vraiment ? Macron le dit lui-même, Darmanin le dit lui-même. Rien ne les sépare. Leur programme de 2022, c'est le programme de Macron en 2017. Leur primaire, c'est la bataille pour choisir le futur Premier ministre de Macron. Ne soyez pas dupes.
Voilà, c'était pas dans le studio d'Europe 1, c'était en meeting, vous l'aurez noté, il n'y a pas de public. Est-ce que vous allez choisir le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Éric Ciotti ?
Non, nous allons choisir le président de la République. C'est toute la différence. Et encore une fois, j'ai la certitude que seul le candidat qui sortira vainqueur de cette primaire peut gagner. Et moi, je souhaite qu'on gagne. Je souhaite qu'on ne soit pas que dans le constat, aussi pertinent soit-il. Je souhaite qu'on ait le courage de l'action. Et les propositions que je porte aujourd'hui, comme celles que j'ai faites adopter hier, que j'ai toujours défendues hier, mon attitude au second tour de 2017. Moi, je suis
vous
le seul candidat.
Vous êtes le seul à ne pas avoir voté Macron. D'accord. Vous avez voté pour
candidat.
Qui
J'ai voté, je me suis... J'ai voté blanc. Oui. J'ai mis un bulletin dans l'enveloppe au nom de François
Donc
Baroin.
Donc, qu'est-ce qui nous dit que les autres Donc, auront la même attitude que vous en 2022 si Emmanuel Macron
était
élu?
Je ne sais pas. On leur posera, vous leur poserez sans doute la question. Moi, mon attitude, elle est claire. J'ai toujours assumé mes choix. Je les revendique. Je suis de droite. Je ne m'excuserai pas d'être de droite.
Vous n'irez bah,
ces procès
jamais
qui sont
dans un
faits,
gouvernement Macron.
En tout cas, je ne les reçois pas pour moi.
D'accord. Louis de Ragnel.
Justement, vous essayez de montrer que la droite est de droite. Enfin, c'est ce que vous répétez souvent. On a l'impression quand même que les Républicains aujourd'hui, de manière globale, sont complètement pris en étau, un peu écrasés entre Emmanuel Macron, qui a un discours très offensif maintenant sur les questions de sécurité, d'immigration. Il a quand même annoncé la diminution par deux du nombre de visas délivrés à l'Algérie et au Maroc. Donc il y a d'un côté une pression très forte exercée par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Et de l'autre côté, effectivement, Éric Zemmour. La question qu'on se pose tous, c'est quel est l'espace qui reste justement pour les Républicains, pour faire entendre leur voix. Et comment est-ce que vous estimez pouvoir vous en sortir? Pas vous, Éric Ciotti, mais comment est-ce que cette famille politique peut s'en sortir? Parce qu'on a l'impression que, si vous voulez, à l'approche de cette élection présidentielle, qu'il est possible que les Républicains disparaissent.
Éric Ciotti.
Mais il est aussi probable qu'ils gagnent. Voilà, il y a les deux hypothèses. Et moi, je me bats pour la victoire. Emmanuel Macron, vous citiez ses tracts de campagne. Il est en campagne aujourd'hui. C'est un candidat. C'est un candidat comme les autres. Mais il a peut-être oublié que ça fait 4 ans et demi qu'il est président de la République. Donc, quelle crédibilité aux annonces qui se succèdent les unes après les autres chaque jour? Pourquoi M. Macron...
Sur les visas, c'est concret. Hein.
Pourquoi M. Macron n'a-t-il pas suspendu les visas préalablement? Il découvre, au bout de 4 ans et demi, qu'il y a un problème migratoire? Pourquoi M. Macron n'a-t-il pas mis en place une politique judiciaire à la hauteur de l'augmentation de la violence? Il nous annonce une loi d'orientation sur la sécurité. Elle ne sera pas votée dans ce quinquennat. Ça voudra dire qu'il y aura eu quasiment sur la sécurité un quinquennat pour rien. On débat aujourd'hui des questions judiciaires. Ça veut dire que la loi qui va en tirer les conséquences, elle aussi, ne sera pas votée dans ce quinquennat. On voit bien qu'on est dans le slogan. M. Macron est très fort pour communiquer. Il est très fort pour multiplier les leurs, mais il est beaucoup moins actif pour bâtir des propositions et surtout des actes concrets. Un exemple, la lutte contre le séparatisme islamiste. Je débattais l'autre jour sur un plateau avec le président du groupe En Marche au Sénat. Il me dit, nous avons fait voter une grande loi contre le séparatisme islamiste. J'ai dit, bien, très bien, citez-moi une mesure concrète, forte, qui fasse reculer l'islamisme dans notre pays. Il a été incapable de le faire.
Et je crois que c'est bien. Il y a quand même les fermetures administratives de mosquées, il y a quand même un certain nombre de
dispositions. Tout ça existait déjà, vous le savez bien, vous êtes un expert de ces questions.
C'était plus compliqué à mettre en place avant, en tout cas.
On a toujours pu faire...
Les préfets étaient obligés d'utiliser les problèmes d'alerte incendie,
on a toujours
obligés
pu fermer les établissements qui créaient un trouble à l'ordre public. Donc, il n'y a rien vraiment de nouveau. On est dans les slogans. Mais quand j'ai débattu d'amendements à l'Assemblée nationale pour interdire le port du voile pour les fillettes, pour interdire le burkini sur les plages ou dans les piscines, pour interdire le voile dans les bureaux de vote pour les assesseurs, quand on a demandé l'interdiction de port de signes religieux pour les accompagnants scolaires, comme c'était le cas sous la présidence de Nicolas Sarkozy, eh bien, on a subi un rejet systématique. Il y avait des instructions de l'Élysée, d'ailleurs contre l'avis même du ministre de l'Éducation nationale, qui lui était plus allant sur ces questions, parce qu'il sait les menaces que cela représente. Eh bien, il y a eu un veto total de l'Élysée, une forme d'immobilisme qui caractérise le en même temps. On donne des signes comme pour l'Algérie. À un moment, on dit, on parle de crimes contre l'humanité. Après, on parle d'utilisation indécente de la part de l'Algérie de ces aspects mémoriels. Donc, on dit tout et ce contraire. Ce pouvoir dit tout et ce contraire, mais... Et son contraire, alors, et au final,
concret,
il demeure immobile.
Cas concret,
c'est ça, la réalité.
Ce qui s'est passé à Valence en début de semaine, un père de famille qui fait éruption dans le collège parce que son fils a crié à la Wagbar le vendredi lors de l'hommage à Samuel Paty. Qu'est-ce que vous recommandez pour protéger les professeurs, pour protéger le personnel enseignant?
D'abord, il faut rompre avec une forme de lâcheté. Moi, j'ai même rencontré dans ma circonscription des exemples où des enseignants n'ont eu énormément de mal à se faire entendre par leur hiérarchie alors qu'ils rencontraient des difficultés et qu'ils subissaient des menaces. J'ai un cas très concret dans un collège de ma circonscription. Il y a eu un peu dans l'éducation nationale cette tendance à pas de vague. Voilà. On met la poussière sous le tapis, on occulte les problèmes. Donc, il ne faut occulter aucun problème. Il faut agir. Il faut saisir la justice.
Un peu changer quand même.
Il faut soutenir. Comment il faut soutenir les professeurs. Il ne faut pas les laisser seuls. Il faut faire de l'enseignement de la laïcité un principe intangible, de l'enseignement de la Shoah. Il n'y a aucune période de notre histoire, aucun cours de sciences naturelles qui ne doit être effacé, qui ne doit être abandonné. La République doit s'imposer et elle ne doit pas subir. C'est ça la réalité.
On fait une pause, on vous retrouve dans un instant, Éric Ciotti avec Louis Dragnel. On parlera des taxes sur le carburant. Comment aider les Français qui sont écrasés par la hausse des prix de l'énergie? Vos solutions dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, notre invité exceptionnel ce soir, c'est Éric Ciotti, candidat à l'élection présidentielle. On va parler des taxes, évidemment, sur le carburant. En tout cas, la hausse des prix du carburant qui assomme les Français et leur pouvoir d'achat. Le gouvernement affirme qu'une mesure sera annoncée d'ici 48 heures. Il hésite entre le chèque carburant et peut-être une baisse sur les taxes. Qu'est-ce que vous préconisez?
Moi, je propose une baisse des taxes. En tout cas, je propose de supprimer la TVA sur la TICPE. Parce qu'aujourd'hui, on a ce paradoxe. Il y a une taxe qui représente aujourd'hui une part très importante du prix que de plus en plus important que payent les Français sur un litre d'essence 98 ou 95. Il y a 60 centimes environ sur la TICPE, la taxe intérieure sur les produits énergétiques. Et sur cette taxe, on paye la TVA. Donc,
double
il y a
taxe.
Une taxe sur la taxe. Donc, je propose que sur cette partie, on ne paye pas la TVA. Donc, ce qui aboutirait à diminuer de 10 à 15 centimes par litre le prix du carburant. Je crois que ça serait un effort quand même important et sensible pour les ménages. Ça serait juste. La TICPE sur tous les produits énergétiques rapporte 37 milliards d'euros. C'est moins pour les carburants. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un ménage, à la veille de l'hiver, il va payer 1 500 euros de taxes environ pour se chauffer et 1 500 euros pour se déplacer. C'est totalement insupportable. Et l'État ne peut pas s'enrichir parce que l'État s'enrichit avec l'augmentation du prix du carburant, du prix du baril. 85 euros aujourd'hui, 85 dollars le prix du baril de pétrole, c'est une augmentation aussi des recettes de l'État.
Comment
plusieurs
vous vérifiez
milliards
que la suppression de la TVA elle est bien répercutée sur les prix? On parle des restaurants. Taxe à 5,5, ça ne s'est pas vu sur le prix en réalité des menus. Comment vous vérifiez?
Là, tout est contrôlé. Puis c'est l'État qui perçoit. Donc, naturellement, l'assiette, elle sera différente. Et donc, on aura forcément, automatiquement, une diminution des prix, puisque les marges des distributeurs ou des producteurs sont aussi contrôlées.
Elles sont assez faibles,
connues en tout cas.
Elles sont très faibles.
Elles sont faibles, justement. La part la plus importante, ce sont les taxes et la TVA sur les taxes.
Et le chèque carburant, mauvaise idée, a priori.
C'est partiel. En tout cas, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'a prélevé l'État. L'État a reçu près de 2,5 milliards de recettes supplémentaires. Et il reverse 500 millions d'euros. Donc, les ménages y perdent. À tout le moins, le gain supplémentaire apporté en termes de taxes par l'augmentation du prix du baril de brut doit être répercuté. Donc, l'État ne peut pas s'enrichir de cette circonstance particulière. C'est le cas aujourd'hui.
Louis Dragnel.
Dans vos propositions, donc notamment celle-là, il y a beaucoup de baisses de taxes, baisses d'impôts. Mais comment est-ce que l'État, qui déjà est surendetté, peut se financer avec votre programme et avec cette équation? Est-ce qu'il faut plus de dettes?
Je vous ai dit que je voulais porter un projet à la fois de clarté sur les alliances, de courage sur l'action et de vérité sur le constat. Moi, je veux dire la vérité. La vérité, vous avez raison, c'est d'une part un pays très endetté, un pays accablé d'impôts, et pour s'en sortir, il faut diminuer les impôts. Pour y parvenir, il faut préalablement diminuer nos dépenses publiques. Je propose une diminution de 100 milliards d'euros, donc des économies sur un quinquennat des dépenses publiques, quelques mesures concrètes. Trois, le report de l'âge de départ en retraite à 65 ans d'ici 2027. C'est un gain de dépenses publiques, enfin d'argent public, moins de prestations, plus de cotisations, de 20 milliards d'euros, entre 18 et 20 milliards d'euros. Première mesure. Je propose la suppression sur le quinquennat de 250 000 postes d'agents publics, notamment qui seraient d'ailleurs permis par le passage, le retour aux 39 heures dans la fonction publique.
Valérie Pécresse en propose la suppression 150. De 150 000. C'est pas suffisant.
Moi, je suis de 150 000.
C'est pas suffisant.
C'est la moitié du programme Fillon. Mmh. Voilà, l'équilibre du programme Fillon, c'était une autre période. Je revendique une grande partie du programme de François Fillon. Je suis sur 250 000. Augmentation du temps de travail, un petit gain pour l'État et les collectivités, la fonction publique hospitalière. Il y a un effort, puisqu'on paye 38 heures, il y a aussi un effort de l'agent, une contribution pour la nation. Et ensuite, les heures supplémentaires sont totalement défiscalisées, qu'elles soient cotisations fiscales ou prélèvements sociaux. Ensuite, je propose également une grande réforme territoriale. Plus que deux échelons territoriaux. La commune, cellule de base de la démocratie, qui retrouverait des pouvoirs qu'on lui a enlevés. Et puis ensuite, une super collectivité. J'en verrai une cinquantaine en France, d'environ un million et demi de
collectivités territoriales.
Voilà.
C'est le retour du conseiller.
Qui refusionnerait les départements, les régions et les métropoles. Et dont les élus seraient des conseillers territoriaux, élus dans les cantons actuels sous la forme paritaire. Voilà, on a vu que les grandes réformes territoriales qu'on nous annonçait porteuses d'économie, au final, la Cour des comptes l'a démontré, je pense aux intercommunalités, ont été très coûteuses. On a créé des nouvelles structures qui, elles-mêmes, ont créé des dépenses de fonctionnement irresponsables, irraisonnées. Donc, il faut revoir tout ça. Réforme territoriale, plus de pouvoir pour ces collectivités, une unité d'action, moins de dispersion. Et après, une réforme de l'État, moins d'agences, le retour du pouvoir dans les mains des préfets de département au détriment des grandes directions régionales coupées de la réalité. Voilà, c'est une réforme de l'État aussi.
Je voulais juste revenir sur votre proposition là, de donc, 250 000 fonctionnaires en moins pendant 5 ans. On pouvait entendre de manière objective la proposition de François Fillon avant le Covid et avant cette crise, qui est aussi une crise économique qui n'a pas encore dit son nom. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte justement post-Covid, alors que tout le monde demande plus de services publics, tout le monde demande une présence beaucoup plus importante de l'État, on sent qu'il y a un besoin, une attente de fonctionnaires en plus quand on écoute les demandes des Français. Est-ce que vous pensez que cette mesure est adaptée aux besoins des Français aujourd'hui?
Oui, je le crois. Parce que nous sommes un des pays d'Europe qui a le plus d'agents publics. Nous avons 1 million d'agents publics de plus qu'en Allemagne, alors que la population française est plus faible. Et je n'ai pas l'impression que le service public allemand soit défaillant, qu'il ne soit pas performant. On a ce paradoxe, et là, je vais faire une nuance dans ma proposition, on a ce paradoxe d'un État régalien, celui qui assure la protection des Français, la défense, la sécurité, la justice et la diplomatie, qui est devenu squelettique, dont le poids dans la richesse nationale a diminué de moitié en 50 ans. Et on a un État providence, un État social qui, lui, est devenu obèse, qui dépense de plus en plus. Donc, c'est là qu'il faut faire porter
du coup,
de la réduction de la dépense publique.
Il se trouve où, ces 250 000 fonctionnaires? C'est qui? C'est des professeurs? Ce sont des fonctionnaires territoriaux?
J'exonère tous les métiers qui participent à la sécurité de notre nation. Police, justice, gendarmerie, défense nationale. Et j'exonère les soignants de la fonction publique hospitalière. Je dis bien les soignants parce que dans la fonction publique hospitalière, il y a aujourd'hui plus d'un quart de personnes qui occupent des fonctions administratives. Là aussi, c'est une proportion beaucoup plus importante que dans des pays qui ont su réformer leur État comme l'Allemagne l'a fait. Donc, on peut, sur tout le reste, on peut réformer l'État.
L'éducation nationale, oui ou non?
L'éducation nationale, il y a presque 1 200 000 fonctionnaires. Ce n'est pas une question de moyens, l'éducation nationale.
Non, mais
il y a des enseignants aujourd'hui qui sont dispensés, il y a des fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont dispensés d'enseignement. Donc je pense qu'on peut réduire aussi, tout en ayant autant, voire plus d'enseignants. Ce qui est important, c'est d'avoir des enseignants, de réorganiser différemment l'équilibre entre les tâches administratives, les personnels qui sont déchargés de fonctions d'enseignement, il y en a beaucoup, notamment pour des raisons syndicales, et ceux qui sont aux côtés, devant les élèves dans les classes.
Et du coup, oui, ailleurs, les 250 000, donc il y aura un petit peu de personnel de l'éducation nationale, mais vous pensez à où exactement du coup
Je vous ai parlé d'une réforme de la fonction publique territoriale.
Donc c'est là que l'essentiel
c'est
de la réduction de postes...
C'est 2 millions de fonctionnaires. Vous savez, j'ai présidé...
Donc ce n'est pas l'administration centrale d'État,
j'ai présidé,
c'est plus l'administration territoriale.
Oui, mais elle est source aussi de dépenses publiques. J'ai présidé pendant 9 ans le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. C'est une très grande collectivité. Quand je suis arrivé, il y avait 5100 fonctionnaires. Quand j'ai transmis à mon successeur Charles Genesi la présidence du département, il y en avait 4300. Voilà, donc on peut le faire sans révolution,
sans affaiblir
la qualité du service public. Aujourd'hui, on a un service... Le paradoxe, c'est que vous avez raison, Louis Dragnel, nos concitoyens veulent un service public de qualité, de plus en plus exigeant. Mais ce n'est pas parce que nous avons de plus en plus de fonctionnaires que ce service public est de qualité. Voilà, donc il faut aussi des réformes, une organisation. Et j'ai la faiblesse de croire que depuis 1981... On a vu, je crois, plus d'un million de fonctionnaires en plus dans notre pays. Et parallèlement, on a vu la dégradation de notre service public. Donc, c'est pas de là d'où vient le problème. Plus on a de fonctionnaires, moins on a un service public aujourd'hui qui répond aux attentes des Français. Plus on dépense, on est le pays de l'OCDE, enfin de l'Europe en tout cas, qui consacre le plus d'argent à la dépense publique. On est même monté pendant la crise sanitaire à 68%, c'est-à-dire qu'on est un pays quasi nationalisé. Et pour autant, il y a ces demandes. Un hôpital qui est affaibli, un système de santé qu'on croyait le meilleur au monde, on a vu ses défaillances. Une sécurité qui est plus assurée.
Alors
des services publics défaillants,
c'est ça la
réalité. On
va faire une pause, Eric Ciotti, on va parler de sécurité, précisément, à la lumière de ce qui s'est passé à Oyonnax, un groupe de délinquants qui s'y a, avec une disqueuse, une caméra de vidéosurveillance, qui gênait leur trafic de stupéfiants. Tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Eric Ciotti, invité exceptionnel du grand oral de Punchline. Eric Ciotti, à Oyonnax, dimanche soir, à 20h, des jeunes ont pris une disqueuse pour scier une caméra de vidéosurveillance qui était au-dessus d'un mât. Tout cela, évidemment, dans une impunité totale. Les policiers n'ont pas eu le temps d'arriver et pour les en empêcher. Quelle est la solution pour ces quartiers qui ne respectent évidemment plus la loi, mais qui font sécession?
Cet événement est malheureusement extraordinairement et trop fréquemment constaté. C'est le quotidien de beaucoup de quartiers, de beaucoup de territoires, vous le dites. Il y a des quartiers qui aujourd'hui ne appliquent plus les lois de la République, où les lois de la République ne sont plus en fonction, où les policiers ont du mal à pénétrer même, où les forces de secours, les pompiers, les médecins, ne peuvent plus se rendre. Donc il faut que la loi républicaine s'impose à nouveau dans ces quartiers. La seule solution, c'est une réponse pénale, ferme, rapide, dissuasive. Il faut que ceux qui défient la République, et là, c'est un acte de défiance envers la République, scier un mât qui porte une caméra, c'est-à-dire qui contrôle, pour commettre... dans la tranquillité, les délits du quotidien, sans doute le trafic de drogue qui gangrène ces quartiers, eh bien, on ne doit plus laisser passer.
Vous proposez de créer des places de prison, hein, 100 000 places de prison?
Moi, je considère que pour améliorer...
Il faut 10 ans pour ça.
Non, je ne pense pas. Pour améliorer la réponse pénale, l'exécution des peines, il faut savoir aujourd'hui, c'est d'ailleurs une réponse à une question que j'ai posée au garde des Sceaux, il m'a répondu la semaine dernière. Aujourd'hui, 83 000 peines de prison ferme, exécutoires, ne sont pas exécutées, sont en attente d'exécution dans notre pays. 83 000 condamnations de la prison ferme. Pourquoi elles ne sont pas exécutées? Parce que nous avons un manque cruel de places de prison. 68 000 détenus aujourd'hui pour 62 000 places. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places nouvelles de prison. C'était dans son programme en 2017. Nous sommes quasiment à la fin du quinquennat. Il en aura construite, à ce jour, livrée à peine un peu plus de 1700. Donc on est très, très loin du compte. Pour mieux exécuter les peines, pour faire en sorte que les petites peines ne soient pas systématiquement déconstruites, aménagées, pour que la sanction ait un sens et donc qu'elle soit dissuasive, oui, il faut plus de places de prison. J'évalue ces places à environ 100 000 aujourd'hui, d'abord pour l'exécution des peines et ensuite pour respecter la loi de la République qui avait prévu, je vous le rappelle, l'encellulement individuel. C'est-à-dire qu'il ne devrait y avoir qu'une personne par cellule. On en est très loin aujourd'hui avec des matelas par terre, avec des conditions inhumaines aussi qui font pointer du doigt notre pays en matière de conditions carcérales. Donc il faut aller vers ce programme de places de prison. Vous me dites que ce n'est pas possible, il faut 10 ans. C'est vrai que c'est difficile.
Il faut du temps.
Dans mon rapport en 2011, remis à Nicolas Sarkozy, j'avais recensé tous les espaces disponibles, notamment les anciennes casernes. Nous avions proposé également d'installer des préfabriqués qui peuvent être construits en quelques mois.
Reprenez cette proposition.
Je pense que 5000 places pourraient être construites dans les 6 mois grâce à des préfabriqués installés dans les cours de prison ou dans les délaissés des établissements pénitentiaires actuels. Il faut aussi aller vers des établissements plus légers en fonction du profil de la personne condamnée ou du prévenu. Quand une personne ne présente pas de risque d'évasion ou de risque pour elle-même, on n'est pas obligé d'avoir 9 hectares, des glacis, des tours, des miradors, voilà. On peut adapter des établissements, ils seront moins coûteux, plus faciles à construire, plus adaptés. Donc s'il y a une volonté, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Il n'y en a pas eu naturellement sous Hollande avec Madame Taubira, mais il n'y en a guère plus aujourd'hui, il n'y en a pas eu avec Madame Belloubet, il n'y en a guère plus avec Éric Dupond-Moretti. On est un peu dans cette approche idéologique qui dit la prison, ça doit être l'exception. Bien, face à la gravité de la violence, il faut une réponse pénale, il en faut une aussi pour les mineurs. On manque cruellement de centres éducatifs fermés. Moi, j'avais apporté une réponse, c'était l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants, dans les EPID. C'est une loi que nous avions faite voter, qui avait commencé à être mise en application. Là aussi, Hollande et Taubira l'ont arrêtée. Mais Macron a gardé la même politique. Vous savez, le jour où Éric Dupond-Moretti est arrivé à l'Assemblée nationale, en audition dans la commission des lois, il a surpris tout le monde. Vous pouvez regarder les débats, ils sont enregistrés, journal officiel, en disant je vais reprendre une proposition d'Éric Ciotti sur l'encadrement de type militaire des mineurs. Moi, je n'ai pas de tabou. Bien, ça fait un an qu'Éric Dupond-Moretti est là, plus d'un an, rien n'a bougé.
Louis de Ragnel.
Sinon, donc, il y a un sujet aussi qui est lié, c'est la surreprésentation de l'immigration aujourd'hui dans la délinquance.
Bien sûr, vous avez totalement raison.
En 2019, donc, il y a un record de délivrance de titres de séjour qui a été battu, 276 000 titres de séjour qui ont été délivrés. Et puis, on voit de l'autre côté que c'est extrêmement compliqué pour l'État, quel que soit le décideur politique, le gouvernant, le président, d'expulser les personnes en situation irrégulière. On a souvent parlé du problème des pays qui ne reconnaissent pas leurs ressortissants, mais il y a un problème franco-français, il faut quand même aussi parfois balayer devant sa porte, qui est que quand la justice administrative prononce des expulsions, eh bien très souvent, comme il y a des possibilités un peu innombrables de recours, les décisions ne peuvent pas aller au bout, et on a l'impression en fait qu'il y a une forme de fatalité, que au-delà de toutes les postures, les arguments politiques, on a l'impression que c'est quand même très compliqué. Très souvent, la droite s'est beaucoup défaussée sur l'Union européenne, sur les pays étrangers qui ne reconnaissaient pas donc leurs ressortissants. Est-ce que voilà, il n'y a pas un problème franco-français ? Et est-ce que vraiment on peut apporter une solution ou est-ce qu'il n'y a pas une forme de fatalité ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité. Il faut de la volonté, il faut du courage. D'abord, vous avez raison, on a des taux de reconduite à la frontière, notamment vers les pays tiers à l'Union européenne, extrêmement faibles. 120 000 obligations de quitter le territoire, 120 000 expulsions demandées. Il y en a eu en 2020 3 000 à peine, de façon forcée, vers les pays hors Union européenne, vers le Maghreb, vers l'Afrique notamment. Donc c'est ridicule. Quelles sont les réponses, les solutions ? D'abord, il faut reconstituer, réinstaller le délit de séjour irrégulier. Il a été supprimé. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre des personnes en garde à vue. Il faut créer des centres, des places de centres de rétention.
Il y en a très peu en France.
Il y en a très peu.
1800.
Et souvent, ils sont vides.
Et 1800, officiellement, les places réellement disponibles sont encore plus faibles. Moi, je propose qu'on ait au moins 4000 places, qu'on double le nombre de places en centre de rétention, parce que les personnes qui sont en centre de rétention, on est sûr qu'on peut les expulser, ou quasiment sûr.
Si on respecte les délais, parce, autrement, que, quand parce on, que le problème, c'est que souvent on ne respecte pas les délais.
Le délai a été augmenté, ça a été une bonne mesure, je propose qu'il soit porté à un délai plus long, mais...
Par rapport aux autres pays européens qui sont...
Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 6 mois, jusqu'à 180 jours.
6 mois en centre de rétention.
Oui, parce qu'il faut que le parcours d'expulsion soit conduit à son terme. Ensuite, il faut faire preuve de moins de naïveté sur la demande d'asile. Parce que la demande d'asile, c'est aujourd'hui la voie légale pour l'immigration illégale. La plupart des demandeurs d'asile n'obtiendront pas le statut de réfugié. Environ les deux tiers. Donc ce sont des faux réfugiés politiques. Et il faut savoir qu'une fois qu'ils sont en France, 95% d'entre eux ne seront pas expulsés. Donc il faut notamment faire une sélection de ceux qui arrivent de pays sûrs, parce que quand on arrive d'un pays sûr, on n'a pas à justifier d'une demande pour obtenir un statut de réfugié. Donc là, ces demandes, elles doivent être traitées en quelques jours. Le placement en rétention de ces demandeurs d'asile et leur expulsion vers les pays sûrs.
Justement, ensuite, expulsions ne se font pas.
Un dernier mot,
tout le sujet
est
là.
C'est la fin.
Parce qu'il y a sans doute un manque de volonté politique et diplomatique. Moi, je salue le conditionnement de l'octroi des visas au fait qu'on délivre des laissez-passer consulaires pour reprendre ces ressortissants, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Mais pourquoi si tard? Et est-ce que ça sera suivi réellement des faits? Sincèrement, j'en doute. Voilà, mais il y a des solutions concrètes. Pour autant qu'on fasse de cette politique une priorité, en Allemagne, qui est un pays qui a ouvert ses frontières à la demande de Mme Merkel de façon irraisonnée, je le dirais, irresponsable même, il y a pourtant des taux de reconduite à la frontière beaucoup, beaucoup plus élevés. Ça veut dire que dans le cas de l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a un problème français, un manque de volonté, de courage.
Merci beaucoup, Eric Ciotti, d'être venu évoquer votre programme dans le cadre de cette compétition qui s'annonce chez les Républicains et donc avec cette candidature à l'élection présidentielle. Merci Louis de Ragnel.
Merci Laurence.
On se retrouve demain à 18h pour Punchline. Bonne soirée à vous sur notre antenne. Tout de suite, c'est Moulinet Show pour Verveine Underground. Bonne soirée.